Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans En Direct du 13 sur Mon Paris FM. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas entendu, ça fait plaisir. On est toujours dans une émission en direct avec aujourd'hui autour de la table Monsieur Théo. Bonjour Monsieur Théo.
Bonjour Claude, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Ça va très bien et toi?
Ta rubrique, ça va bien, merci. Ta rubrique va porter sur quoi aujourd'hui?
On va parler un petit peu de la situation au Moyen-Orient.
T'as réussi à te mettre à jour?
C'est un peu compliqué, il faut suivre.
Il faut suivre, ça
change,
ça va vite,
à peu près
ça
toutes les heures, donc bon.
Ok. On a aussi autour de la table Madame Marie Rousseau. Bonjour.
Bonjour Claude.
Donc on s'est mis d'accord, on va s'appeler par nos prénoms comme d'habitude, Marie. Oui. Et puis derrière la vitre, on a plein de monde aujourd'hui. On a donc Léo qui est de retour. Salut Léo. Voilà, on a un grand coucou de Léo. On a Kylian qui est là. Bonjour. Un grand coucou aussi. Et alors pour tout vous dire, Kylian. Ah ben voilà, mais tu sais que je suis très mauvais avec les prénoms. Kylian, je vais le marquer. Ah, merci, ça me fait plaisir. Oui, parce que tout à l'heure, il m'a appelé Pascal entre nous. Hein. Donc, on a aussi Thomas, Leslie, on a Anaïs et on a Élise qui sont venus nous rencontrer, nous voir. Avec Élise, elle a 3 ans, Anaïs a 4 ans. Et donc, ils vont faire de la technique aujourd'hui. Hein, ils vont nous aider. On va avoir un son superbe. Voilà. Aujourd'hui, le thème va porter essentiellement sur quelque chose que vous connaissez peut-être pas trop, mais on va voir ça. On va lancer tout de suite le jingle et on va parler de l'autisme. À tout de suite. Aujourd'hui, nous allons voir le monde autrement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet encore mal compris. Je veux parler de l'autisme. L'autisme, ou trouble du spectre de l'autisme, concerne des millions de personnes dans le monde. Ce n'est pas une maladie, mais une manière différente de fonctionner, de ressentir et de communiquer. Certaines personnes autistes parlent peu, d'autres beaucoup. Certaines évitent le regard, d'autres le recherchent. Mais toutes ont un point commun, une perception du monde unique. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai souhaité inviter Madame Marie Rousseau, qui a une double casquette. D'une part, Madame Rousseau est mère d'un enfant autiste et pourra nous faire témoignage de son vécu comme parent, mais aussi comme interlocutrice du milieu médical. Et d'autre part, Madame Rousseau participera à l'implantation dans notre arrondissement d'une association qui s'appelle la Cour des Grands et qui, évidemment, est en lien, avec ce trouble. Bonjour madame, un grand merci d'être dans notre studio pour votre premier témoignage radiophonique.
Avec plaisir.
Marie, bienvenue. Donc, on va peut-être consacrer ce début d'émission un petit peu à votre vécu, comment ça s'est passé, comment vous avez perçu les choses, comment ça s'est annoncé dans votre vie, et puis peut-être la façon dont ça a peut-être bouleversé votre vie.
Oui, bouleversé, c'est le mot, absolument. En fait, mon fils... vécu tout son parcours dans le 13e. Et ça a commencé avec la crèche Rico, où il a été formidablement bien accueilli avec un personnel exceptionnel. Et là, on a commencé à me signaler un développement assez hétérogène, qui ne fonctionnait pas vraiment comme les autres enfants, qui ne jouait pas comme les autres enfants, qui ne jouait pas au faire-semblant, qui n'imitait pas, qui n'arrivait pas à entrer dans même les jeux collectifs, même tout petit, hein. Et que son développement moteur également était différent, avec une perception de son corps dans l'espace qui le mettait en danger. Néanmoins, c'était un enfant tout à fait charmant, et donc qui est vite devenu un peu la coqueluche de la crèche. À la sortie de la crèche, ils m'ont dit, alors, comme son développement était un peu retardé, on va dire, il a eu une dérogation pour entrer à l'école 3 ans et demi passés, et la crèche m'a prévenu que ça allait être très compliqué. Donc, il est rentré à l'école. Et effectivement, ça commençait à être très compliqué en maternelle, où il commençait à courir partout. Il ne rentrait pas dans les jeux collectifs. Et là encore, on a eu la chance d'avoir affaire à un directeur d'école maternelle remarquable, qui vraiment l'a pris sous son aile, et des enseignants qui ont été compréhensifs. Mais il n'y avait pas de diagnostic de handicap posé.
Mais justement, je vous interromps, mais à partir du moment où à la crèche, il y a la PMI, il y a tout ça autour, personne n'a posé un diagnostic, personne ne vous a contacté pour dire bah, peut-être qu'il faut faire un test, voir ce qui se passe.
Non, il m'a envoyé voir un neurologue, un neuropédiatre plus exactement, et le neuropédiatre n'a absolument rien constaté. Ensuite, je l'ai emmené voir un psychologue dans le 13e, parce qu'il avait un comportement stéréotypé qu'il n'a pas manifesté chez la psychologue, qui m'a dit à la fin de la séance, après nous avoir reçus, écoutez madame, je pense que c'est vous qui êtes très angoissée, donc si vous voulez venir me consulter, c'est tant d'euros de l'heure, et quand vous voulez, à votre disposition. Et le neuropédiatre, de la même manière, m'a dit, mais enfin, je vois pas de problème dans son développement, oui, il a du retard, mais ne vous inquiétez pas.
Donc en fait, on avait une certaine errance médicale, si je comprends bien.
Oui, total. Et même le pédiatre, je lui ai dit, mais regardez sa démarche. Il me dit, bah oui, il faut peut-être faire une radio des hanches. Et pour moi, ça n'était pas une histoire Enfin, on a fait la radio des hanches qui ne montrait absolument rien. Mais en fait, aucun médecin ne comprenait ce qui se passait. Et puis il me disait, bon, ben voilà, tout va rentrer dans l'ordre un petit peu plus tard.
Juste pour préciser par rapport à nos auditeurs, c'était il y a 60 ans, 50 ans, parce que ce que vous racontez, c'est quand même quelque chose qui se faisait avant. C'était il y a combien de temps?
C'était il y a une vingtaine d'années. Donc après, j'ai emmené quand même dans un CMP.
Ça veut dire?
Centre médico-psychologique. Oui. Où, hélas, c'est la psychanalyse qui a pris le dessus. Donc, ils n'ont voulu faire aucune évaluation et c'est un psychologue qui l'a pris en charge. Et il y a une vingtaine d'années, étaient considérés comme autistes, plus spécifiquement des jeunes qui étaient non-verbaux, on dit maintenant non-oralisants, qui avaient des très graves troubles de comportement avec des auto-mutilations ou de l'auto-agressivité ou de l'agressivité. Et les autres, ben en fait, c'était de la psychose infantile. Donc, mon fils était considéré comme un enfant ayant une psychose infantile. Alors, je l'ai quand même emmené voir un autre neuropédiatre qui, effectivement, a trouvé que son développement était un peu hétérogène et qu'il l'a envoyé chez la psychomotricienne de cet hôpital. Et la psychomotricienne était d'obédience psychanalytique, hélas. Donc, par exemple, mon fils ne pouvait pas donner un coup de pied dans un ballon. En fait, c'était des problèmes moteurs qui déjà se révélaient. Et elle considérait que c'était parce que il ne pouvait pas donner un coup de pied dans le ventre de sa mère, que le ballon représentait le ventre de sa mère. Alors, des perles comme ça, je peux vous dire que j'en ai...
C'est incroyable.
J'en ai, mais des centaines de pages.
Il faut écrire un bouquin, c'est pas possible.
Sur toutes les perles, oui.
Le bêtisier, là, faut faire un bêtisier, oui.
Mais comme beaucoup, beaucoup de parents, hélas, qui ont un enfant qui a plus de 20 ans. Voilà ce que nous avons vécu. Donc, ça a été, au CMP, ça a été un petit peu l'horreur, parce que mon fils rentrait dans des stéréotypies, et que quand il évoquait avec moi, parce que... Il était verbal, donc il commençait un petit peu à s'exprimer. Quand il exprimait un chagrin et que j'en parlais au psychologue, le psychologue me disait « Non, madame, moi je n'ai pas à être intrusif si votre enfant ne l'évoque pas avec moi. Moi je n'ai pas à en parler. Ah, bah, alors vous servez à quoi ?» Eh bien, à faire un travail avec lui. Alors je ne sais pas quel était vraiment ce travail, si ce n'est de l'enfermer dans des stéréotypies qui le rassuraient. Ensuite, ils l'ont envoyé dans une petite unité... pour enfants, qui était unité psychiatrique. Donc, je ne voyais pas tellement le terme psychiatrique, ce qu'il venait faire là.
Ça fait un peu peur. Hein.
Oui, ça fait un peu peur. Et là, en effet, c'était à nouveau entièrement psychanalytique. Alors là, j'ai eu aussi droit... Votre fils a beaucoup évoqué tel mot à tel moment, avec telle phrase. J'ai dit, ah oui, ça vient d'un petit livre. En fait, quand il est en colère, mais ce n'est pas ce mot-là qu'il dit, vous l'avez mal entendu, c'est tel autre mot. Et on me dit, ah mais non, mais madame, nous, c'est pas, non, votre interprétation ne nous intéresse pas. Nous, ce qui est important, c'est ce que nous, on entend.
Et il avait quel âge à peu près
là,
à ce moment-là?
Là, il avait 4 ans et demi.
4 ans et demi. Alors, donc, il était déjà en milieu scolarisé.
Il était en maternelle.
En maternelle avec le directeur dont, voilà. dont on m'a dit tout à l'heure que ce directeur était absolument génial.
Génial. Je vais lui rendre hommage, Paul Casabianca, qui doit être peut-être encore directeur d'autres écoles et je crois formateur, un homme exceptionnel.
Est-ce que la médecine scolaire était présente aussi à ce moment-là ou pas du tout?
Médecin scolaire, elle était en grande difficulté elle-même sur le plan médical, donc souvent en arrêt.
D'accord.
Ça c'est donc dans cette petite unité, ça s'est mal terminé, c'est-à-dire que ça s'est terminé par un acte maltraitant, donc je l'ai immédiatement retiré. Le CMP l'a envoyé dans un autre hôpital de jour du 13e, qui était encore plus d'obédience psychanalytique. Et alors là j'en ai une centaine de pages. Et là, je voyais que mon fils n'y était pas heureux. Donc, au fur et à mesure, je réduisais le temps. Et puis, il est rentré ensuite à l'école élémentaire. Et là, ça a été... c'était de Caribancy, là, une catastrophe totale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'enseignants spécialisés. Il était dans une... À l'époque, ça s'appelait une CLIS, maintenant ce sont les ULIS, où il y avait tout type de handicap, rien n'était adapté, il n'y avait aucune structuration de l'espace et rien n'était adapté à ses besoins. Et dans ce temps qui a été très très difficile, mon fils a forcément développé des troubles de comportement. Et puis finalement, en 2007... Des professionnels quittaient l'hôpital de jour en me disant « Voilà, madame, on ne veut pas cautionner ce qui s'y passe. Et voilà ce qu'on a pu observer avec votre enfant, mais on ne témoignera pas. » Donc, j'ai compris.
D'accord, donc de nouveau maltraitance.
Absolument. Et donc, à ce moment-là, à force de lecture, de recherche, d'observation, je me suis dit... en fait, ils ne veulent pas faire d'évaluation de quelque sorte que ce soit, dans quelque domaine que ce soit. Donc, pour moi, il s'agit d'autisme. Et donc, je vais aller dans un centre d'évaluation.
Donc, en fait, c'est vous qui avez mis, le diagnostic.
Absolument, absolument. Et là, effectivement, l'évaluation, elle a été très, très claire. Et donc, diagnostic autisme. À partir de là... j'ai pu le mettre immédiatement en place, ce que j'avais déjà commencé d'ailleurs, un accompagnement cognitivo-comportemental et développemental à domicile. Et en parallèle, il a été suivi par un CESAD. Donc moi-même, je me suis formée aux techniques ABA et TEACH. Et puis...
C'est quoi ABA?
Alors ABA, c'est l'analyse appliquée du comportement. Ce sont des techniques comportementalistes.
D'accord.
Avec une éducation structurée et TEACH également.
Et ça, c'était chez vous?
Et ça, c'était chez moi et au sein d'un CESAD qui venait à l'école. Il était encore à l'école élémentaire. Bon, jusqu'à ce que l'école élémentaire... Donc, il y avait un temps à domicile en ABA, un temps au CESAD et le CESAD venait à l'école. L'école était non inclusive, c'est-à-dire que les enfants de cette CLIS n'avaient pas le droit d'aller en cours de récréation avec les autres. Des fois qu'ils les contaminent, on ne sait jamais. C'était absolument... donc moi, j'avais proposé à la directrice qu'elle mette en place un tutorat, parce que j'avais vu la bienveillance des enfants à l'école maternelle qui ont été très très bénéfiques pour mon fils. Et la particularité de mon fils, c'est qu'il se souvient encore, il a encore des souvenirs très forts de la crèche.
Est-ce que je peux vous demander au passage quel est l'âge de votre fils aujourd'hui?
25 ans.
25 ans, d'accord.
Et des très très bons souvenirs de l'école maternelle. Et il en reparle, il les réévoque. Bon, moi je n'ai aucun souvenir avant 5 ans, alors ça je peux vous dire, je ne sais pas comment il fait. Mais... Donc il me réveille des souvenirs de cette époque-là. Effectivement, je constate à chaque fois qu'il est dans le juste. Bref, l'école a fini par... l'exclure. Oui, alors, donc il n'y avait pas d'enseignants spécialisés non plus et des enseignants qui se relayaient et des auxiliaires de vie scolaire qui étaient non seulement non formés, mais malheureusement parfois des cas sociaux. Enfin bon, passons à l'exception d'une qui était vraiment super adorable. Donc à partir du moment où l'école l'a exclue,
oui.
Mon fils s'est retrouvé à plein temps à domicile et avec les 6 heures au sein du CESAD. Et donc là, j'ai mis en place une équipe pluridisciplinaire, vraiment, intense à la maison. Et moi, j'ai fait partie de l'équipe, donc non seulement formée, mais aussi outillée. Et ça faisait partie du programme ABA et teach, que le parent soit totalement investi pour mettre en place les mêmes priorités comportementales que l'équipe éducative.
D'accord. Juste une petite question au passage. Est-ce que votre fils s'exprimait? Est-ce qu'il ne s'exprimait pas? Parce qu'on a vu dans la toute petite présentation que j'ai faite tout à l'heure, on voit qu'il y a différentes sortes d'autisme. Oui. On voit qu'il y en a qui sont extravertis, d'autres introvertis. Si ce n'est pas indiscret, votre fils se présentait comment, son profil?
Alors, il était verbal, enfin, déjà oralisant. Avec une très très bonne mémoire concernant, avec un vocabulaire très très important, mais très écolalique. C'est-à-dire qu'il répétait vos phrases, il inversait le je et le tu, il était beaucoup dans la répétition des phrases, où il apprenait par cœur, parce qu'il continuait à faire, des dialogues de ses petits dessins animés à l'époque. Ou des chansons, et reproduisait beaucoup. Mais il était très sociable déjà, ce qu'il avait déjà montré tout petit. Donc à partir de ce moment-là, on a identifié également, grâce à une ergothérapeute américaine qui avait fait son profil neurosensoriel, ce qui n'était pas fréquent à l'époque, qui était déjà très, très novateur. Et on a vu qu'il avait effectivement des troubles praxique des troubles de la coordination. Et donc, elle aussi m'a outillée, m'a formée pour l'accompagner au quotidien. Et puis, je me suis vite rendu compte que mon fils avait besoin des autres, qu'il ne s'épanouirait pas dans son adolescence en restant à la maison, même si le programme lui avait permis de retrouver du bien-être, de retrouver sa joie de vivre. Mmh. Parce que c'est un enfant qui est assez joyeux et finalement très résilient après les épreuves qu'il avait passées et subies. Et donc, c'est comme ça que je suis allée voir ce qui se passait un petit peu au Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Enfin, y a des amis qui habitaient dans différents pays. J'ai été en lien au Québec avec un établissement scolaire qui accueillait 8 classes de la maternelle jusqu'à 20 ans d'enfants autistes, enfin, et d'adolescents autistes. 8 classes avec 8 jeunes. Ça faisait 64 autistes dans un établissement scolaire.
C'est énorme.
Et quand elle m'a dit, donc vous avez quoi? Vous voulez dire en France? Ben oui. Rien. J'ai cru qu'elle était tombée de sa chaise. Donc je me dis, bon, ben voilà, il va falloir construire une classe pour... Mon fils, je précise, mon fils est non lecteur, donc avec un niveau scolaire qui était maternel. Mmh.
C'est toujours le cas.
Ce qui est toujours le cas, mais il a développé d'autres compétences, donc néanmoins. Et donc, pendant qu'il était donc à domicile, je me suis dit, il faut que je construise une classe en lycée pour lui, pour des jeunes qui n'ont pas de solution en milieu ordinaire. J'ai toujours refusé l'institution, après déjà ce qu'il avait vécu, et parce que je pensais que son épanouissement ne pouvait se faire qu'au milieu de ses pairs en milieu ordinaire. D'où la création, là, de mon association et de toutes les actions que nous avons menées par la suite.
D'accord, ok. On a parlé de votre fils, mais on n'a pas trop parlé de vous. C'est-à-dire que dans tout ça, comment vous avez... on a bien ressenti des choses par rapport à ce qui s'est passé pour lui, mais vous, en tant qu'aidante, on voit que vous êtes devenue un peu une spécialiste, puisque vous avez été au Canada, vous avez été en Angleterre. Mais comment vous avez ressenti les choses? C'est-à-dire que c'était une force pour vous? C'était une fatigue? Ou c'était de l'énervement? Comment vous pouvez-vous transmettre votre ressenti aux autres parents qui nous écoutent?
Colère et violence. Colère contre la violence qui nous a été faite, la violence qui a été faite à mon fils, la non-reconnaissance de son... handicap, donc une grosse colère, parce qu'en fait, toutes les premières années qui étaient déterminantes, s'il avait été pris en charge dès la petite enfance, s'il y avait eu diagnostic précoce, il aurait eu un développement beaucoup plus riche, beaucoup plus important, et qu'il aurait fait dévier de la trajectoire sur laquelle il s'est enfermé. Et puis, au-delà de ça, les souffrances et renforce sa vulnérabilité, mais surtout ont développé des troubles de comportement qui restent engrammés dans le cerveau et donc qui peuvent se remanifester. Donc ça veut dire une insécurisation profonde vis-à-vis de l'adulte qui n'a pas été très bienveillant et très bien traitant et surtout pas à l'écoute de ses besoins. Mmh. En fait, les troubles de comportement, souvent sur des personnes autistes, sont une manière de communiquer. Mon fils, même s'il est oralisant, il ne communique pas son mal-être, sa pensée. Il n'a pas la même vision que nous. Il ne se rend pas compte s'il n'est pas bien traité. Et il n'a pas. Donc, il perçoit qu'il n'a pas il ne peut pas avoir confiance en l'adulte. Donc, moi, j'ai vécu, oui, dans une colère dont je n'arrive pas toujours à me défaire. De toutes ces violences-là, et puis c'est surtout beaucoup de sacrifices.
Oui, je me doute, voilà. Comme beaucoup d'aidants d'ailleurs.
Alors comme beaucoup d'aidants, mais aujourd'hui, beaucoup de parents d'enfants autistes sont devenus experts, et cette expertise, elle doit être reconnue essentiellement partout, parce qu'ils sont les partenaires principaux, essentiels, et qu'ils ont eux-mêmes la plus grande connaissance de leur enfant. Il n'y a pas les sachants qui sont du côté institutionnel ou du côté médical et les parents de l'autre à qui on donne des ordres. Ils font vraiment intégralement partie du développement de leur enfant.
D'accord. On a donc vu votre fils au moment de la crèche, la maternelle, l'école élémentaire. On a vu que vous étiez sous séduit pour les années lycée. On a laissé de côté le collège, mais je pense que ça a dû être quelque chose...
Il était à la maison pendant ces années.
Mais donc, on arrive à une période où il a 25 ans, donc il est jeune adulte. Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour les autistes? Je dis les autistes comme ça, en général. Quand ils sont jeunes adultes, est-ce qu'il y a des stages? Est-ce qu'il y a des aides? Comment ça se passe? Comment se passe sa vie et votre vie actuellement?
Alors après, tout dépend du niveau du jeune. Il y a ceux qui peuvent rester scolarisés, mais en général, à partir de la troisième, on voit qu'il y a de moins en moins d'enfants autistes qui sont scolarisés parce qu'ils ont un besoin de plus d'étayage et un besoin d'accompagnement différent. Et en fait, c'est pour ça que j'ai conçu après l'unité d'enseignement pour adolescents autistes au sein d'un lycée, qui était la première en France, qui était rattachée à un dispositif médico-social. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir, oui, parce qu'elle était essentielle. Elle a été vraiment une très, très grosse innovation et surtout une réelle inclusion. Ce n'était pas une implantation, c'était une réelle inclusion, et comme j'aimerais l'avoir très, très souvent. Et ça, il n'y avait rien pour des jeunes qui n'avaient pas le niveau scolaire de leur classe d'âge, qui ne pouvaient pas poursuivre en Ulysse, qui étaient très, 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 très peu scolarisés, parce qu'on considérait à cette époque-là comme scolarisé un jeune qui allait une heure par semaine à l'école, mmh, ou au collège. Et donc, cette unité d'enseignement était une solution pour tous ces jeunes qui n'en avaient pas en milieu ordinaire, qui étaient soit en IME, soit à domicile, comme le mien, soit partiellement en Ulysse. Donc déjà, il y avait ce vide. Et donc, le ministère à l'époque qui était en charge du troisième plan autisme, et donc la ministre, Madame Carlotti, que je salue et que je remercie pour son action à l'époque, m'a permis d'ouvrir, en même temps qu'elle ouvrait les premières unités d'enseignement maternel autiste, la première unité d'enseignement pour adolescents autistes au sein d'un lycée qui a ouvert en 2016 au lycée Honoré de Balzac dans le 17e.
Ah, c'est Honoré de Balzac, d'accord. Mmh. Mmh. Et il y en a eu d'autres depuis?
Il n'y en a pas eu d'autres depuis.
Non.
Alors après, il y a eu depuis des unités d'enseignement externalisées, principalement d'IME, sur divers types de handicap. C'est la seule, je crois, qui reste en tant qu'unité d'enseignement externalisé autisme. Donc c'est une équipe médico-sociale et un enseignant à plein temps. Et la particularité de cette unité, c'est que chaque jour, les jeunes avaient des activités partagées avec les lycéens ou les collégiens.
Génial.
Et y compris des inclusions inversées. C'est-à-dire, par exemple, il y avait la classe option cinéma du lycée. professeur a proposé à ses élèves comme film de fin d'année de faire un documentaire éventuellement sur cette classe. Il y avait quelques-uns, 3-4 qui voulaient. En fait, toute la classe a souhaité le faire. Et donc, ils sont venus en plusieurs groupes toutes les semaines, passer une après-midi avec les jeunes de l'unité d'enseignement. Il y a eu un atelier théâtre qui a permis de mélanger 6 lycéens et les 6 jeunes de l'unité d'enseignement. Il y a eu des séjours sportifs et pédagogiques qui étaient organisés par des élèves, des enseignants de la cité scolaire. Et donc, les jeunes de l'unité d'enseignement ont fait ces séjours. Il y a eu les sorties pédagogiques avec les enseignants. Il y a eu une enseignante qui était extraordinaire, qui a fait venir toutes les semaines dans sa classe des jeunes, alors qu'elle était prof de STMG, donc c'était de l'inclusion en vue d'habileté sociale, mais qui pouvait aussi servir aux élèves de sa classe et à qui ça a été extrêmement bénéfique. C'est-à-dire que le rapport, il était vraiment gagnant-gagnant. Et mon fils, quand il a eu 18 ans, j'ai proposé à l'équipe éducative et pédagogique de fêter au lycée ses 18 ans avec 3-4 de ses copains de cette classe STMG. En fait, ils ont tous voulu lui fêter. Et quand je vois la carte avec les mots qu'ils ont mis, qui étaient extrêmement personnels, j'ai été très très touchée parce que c'était très personnel. Donc ça veut dire qu'ils avaient été chacun très touchés. Et qu'ils avaient une réelle affection pour mon fils. Et puis le choix des cadeaux qu'ils ont fait le démontrait aussi.
Et votre fils, il en a des souvenirs de ça? Parce que tu en parlais des souvenirs, oui.
Oui, parce que lui, en fait, à son bonheur, d'abord, il était un gros vecteur d'inclusion. Il aime bien être... Il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, il fait partie de ceux qui parlent tout le temps. Mais il était assez drôle pour les lycéens. Donc, en fait, il se faisait plein de copains. Et il a très bons souvenirs, parce que comme la classe était en raid de jardin, enfin en rez-de-chaussée, en rez-de-cour, donc il allait à chaque pause aller voir les autres lycéens et il s'était fait des copains. Et j'ai eu la chance de pouvoir accompagner professionnellement cette unité d'enseignement en tant que chargée de mission, ce qui est assez rare. Et par rapport à ça, je trouve qu'il serait essentiel demain que, effectivement, les pouvoirs publics reconnaissent cette expertise des parents lorsque les parents, et je ne suis pas la seule, et nous sommes très nombreux, à avoir créé des dispositifs innovants. Les innovations, elles viennent principalement des parents parce qu'ils ont cette expérience sur le terrain, donc ils savent d'une manière pragmatique quelle est l'importance et les besoins, quels sont les besoins essentiels au développement et à l'évolution des jeunes ou des adultes. Et je trouve qu'il serait essentiel que les parents aient une fonction décisionnaire au sein des associations gestionnaires auxquelles ils ont fait porter leur projet.
Puisqu'on parle des ministères, vous dépendez de quel ministère? Plutôt du ministère... Enfin, les problèmes d'autisme dépendent de quel ministère?
C'est rattaché au ministère chargé des personnes en situation de handicap. Oui. Et puis, il y a la délégation interministérielle en charge de la stratégie nationale TND et autisme, autisme et TND. Donc, ce sont les autorités de tutelle, plus l'ARS, bien sûr, l'Agence régionale de santé, et le département qui vient en soutien quand il s'agit de création pour adultes.
OK. Encore une petite question concernant votre enfant. Il a 25 ans, on a vu les années lycée. Entre les années lycée et puis maintenant, comment ça se passe? Il a des stages?
Il a commencé à avoir des stages quand il était au lycée. En fait, après, moi j'ai quitté cette fonction de chargée de mission. L'unité d'enseignement avait un petit peu évolué. Elle avait été reconnue par le ministre et la déléguée interministérielle comme un dispositif non seulement innovant, mais exceptionnel dans sa capacité inclusive. Bon, après, ça a un petit peu évolué différemment et je souhaitais que tous les jeunes puissent accéder à des stages pour les amener à une pré-professionnalisation. Donc moi-même, j'ai cherché des stages pour mon fils. Donc d'abord en province, pendant les vacances. Et il se trouve que c'était, comme il était très attiré par l'équipe des jardiniers, on leur a proposé de l'accueillir un stage. Puis ça s'est très bien passé, donc il les a renouvelés pendant les vacances. Et puis ensuite, il y a eu les Duo Day. Et Duo Day, c'est un dispositif que je trouve assez remarquable. Il s'agit de, d'une journée par an, une journée donc nationale, où les entreprises proposent d'accueillir en découverte une personne en situation de handicap. Et j'ai postulé pour mon fils, j'ai essayé d'avoir les responsables, de leur expliquer, de les sensibiliser à l'autisme, à cette difficulté, à son besoin. Donc il a été accueilli comme ça sur plusieurs Duo Day en entreprise, et puis on a créé des liens avec ces entreprises où il a pu refaire d'autres stages. Il en a fait aussi au sein de garages automobiles, parce qu'il adorait ça, mais principalement en jardinage. Et donc, aujourd'hui, enfin, alors, donc, après l'unité d'enseignement, j'ai créé un autre dispositif qui était la première classe de formation professionnelle pour des jeunes adultes autistes qui ne pouvaient pas entrer dans les formations de droit commun, soit parce qu'ils avaient besoin d'un étayage spécifique et des techniques d'apprentissage différentes qui sont spécifiques aux personnes autistes, soit parce qu'ils avaient un manque d'autonomie, soit parce qu'ils avaient un niveau scolaire beaucoup trop bas pour pouvoir rentrer dans ces dispositifs. Et donc c'était une classe qui était composée à la fois d'un dispositif médico-social, un petit peu je reprenais le principe de l'unité d'enseignement, et c'était dans le prolongement en tout cas sur la philosophie du projet. Donc d'un SAMHSA, c'est un dispositif adulte, mais là c'était spécifique et à temps plein, et d'un CFA, une sorte de formation d'apprentissage, et qui était basé sur des contrats d'alternance via un contrat de professionnalisation expérimentale. Si je parle un petit peu technique là, parce que c'est assez important. Ce contrat de professionnalisation expérimentale avait l'intérêt de ne pas aboutir à une qualification ou à une certification, et de ne pas faire valider les blocs de compétences dans leur intégralité, et donc permettait à la fois aux entreprises de cibler les tâches qui étaient prioritaires pour eux et les compétences du jeune. Mmh. Donc on était à nouveau dans un dispositif gagnant-gagnant. Bon, il se trouve que le contrat de professionnalisation expérimentale est venu à terme, puisqu'il était expérimental, avant que les jeunes n'aient pu rentrer en alternance. Et donc le CFA a fermé. Bon, après je passerai sur le SAMHSA, qui a été transféré vers un autre gestionnaire, et nous arrivons au présent. Et là, mon association a pu avec la délégation interministérielle et les financeurs publics, évoquer ce changement et cette transformation en SAMHSA Emploi Habitat, qui correspond à l'instruction interministérielle de cette année. Okay. Voilà.
Bah écoutez, ce que je vous propose, on va reprendre un petit peu notre souffle, parce qu'on a pas mal discuté quand même. On va peut-être prendre un petit coup d'eau, ça va nous faire du bien. Vous avez choisi une chanson de Barbara. Mm-hmm. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi cette chanson?
On va peut-être l'écouter avant.
Ah, si vous voulez. Bah écoutez, on va écouter la chanson et puis vous allez nous expliquer pourquoi. C'est parti.
Qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui peut riez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Contre qui, comment et combien? Pour qui, comment, quand et combien? En perdre le goût de vivre. le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Mais pour rien, mais pour presque rien, pour être avec vous, et c'est bien, et pour une rose entr'ouverte. Mais pour une respiration, mais pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne. Et pour revivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec l'effet de la tendresse. Riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie en écrasant des fleurs sauvages, mais faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Toute richesse, aimer avec ivresse et vivre, oh, vivre avec tendresse, vivre, vivre avec ivresse, rien que la tendresse pour toute richesse. Mais donnez, oh donnez, avec ivresse.
De retour dans les studios de Mon Paris FM, dans votre émission en direct du 13, avec aujourd'hui Marie Rousseau. Rebonjour Marie.
Rebonjour Claude.
Et toujours Monsieur Théo qui est là.
Rebonjour.
Pourquoi le choix de cette chanson alors?
Alors, bah déjà il y a un rapport avec l'actualité, car un enfant qui pleure, qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Et un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Et que je dédie cette chanson à toutes les mamans, mais pas seulement celles de ceux qui sont dans les pays en guerre, mais également à toutes les mamans d'enfants autistes, parce que toute la fin de la chanson, c'est la tendresse pour toute richesse, et ne se battre qu'avec les feux de la tendresse. Mmh. Et je pense que maman d'enfant autiste, quand elle se bat avec son enfant, elle donne tout d'elle-même, elle va jusqu'au bout du bout, jusqu'au bout de ses possibilités, jusqu'au bout des possibles, jusqu'à trouver des solutions inimaginables avec toute la tendresse d'une mère, avec tout l'amour même. Donc je trouve que la fin de cette chanson le raconte bien. Et puis il y a une espèce de violence en même temps et une énergie. Voilà. Et puis parce que Barbara était d'une grande influence dans ma vie professionnelle et dans ma vie de chaque jour.
Et donc on voit cette bataille, cette énergie, elle vous habite, et donc ça vous a amené à créer une association, ça vous a amené à être dans un tissu associatif dans le 13e arrondissement, c'est peut-être un petit peu ce qu'on va voir maintenant, si vous voulez bien. Donc vous avez créé une association, vous pouvez nous rappeler le titre ?
La Cour des Grands 75, donc je vais expliquer aussi
le
titre.
Alors allez-y.
Eh bien... Mon enfant, j'estimais qu'il avait le droit, comme les autres, d'être au milieu des autres, de vivre avec ses pairs, avec d'autres enfants neurotypiques, et donc de jouer dans la cour des grands. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, j'estime que des jeunes adultes ont le droit de travailler comme les autres en milieu ordinaire pour évoluer aussi dans la cour des grands. Voilà, elle s'appelle la Cour des Grands 75 parce que...
Ça, j'ai deviné, c'est parce qu'on est à Paris.
Ici, mais aussi parce qu'il y a, je crois, d'autres associations à la Cour des Grands qui n'ont absolument rien à voir avec l'autisme, et donc voilà, ça le démarquait. Et elle est implantée donc, elle-même dans le 13e. Et donc, nous l'avons créée en 2013 pour concevoir, enfin, pour faire construire et financer la première unité d'enseignement. Alors cette association, aujourd'hui, elle a aussi évolué. Alors déjà, nous sommes les interlocuteurs aussi du pouvoir public et aussi dans la transformation de cette offre aujourd'hui du SAMHSA, qui est devenu un SAMHSA Emploi Habitat et dont je reparlerai, qui a été confié à l'association Maya Autisme et dont les locaux sont dans le 13e. Mais au-delà de ça, nous sommes représentés au sein d'autres associations. Par exemple, je suis administratrice de l'association qui gère le Centre de ressources autisme Île-de-France. Je participe également à des commissions et des groupes de travail à la fois sur le plan régional et national. Et je travaille aussi à essayer de faire évoluer avec d'autres associations l'offre et l'accompagnement spécifique des besoins de personnes autistes en milieu ordinaire et particulièrement aujourd'hui sur l'emploi. Donc par rapport au contrat de professionnalisation expérimentale dont je vous ai parlé tout à l'heure, nous sommes avec d'autres associations, avec une autre association à l'origine du projet de loi qui a été voté à l'unanimité au Sénat le 3 juillet de l'année dernière et porté par la sénatrice Nadège Havet pour le renouvellement et la pérennisation du contrat de professionnalisation expérimentale et que maintenant nous nous battons pour que l'Assemblée nationale puisse le mettre à l'ordre du jour et pour que ça puisse être voté. Parce que ça pourra profiter à un très très grand nombre de jeunes adultes en situation de handicap, bien au-delà de l'autisme, qui ne peuvent en aucun cas valider l'ensemble des blocs de compétences, mais pour l'autisme, on le voit bien, parce que dans les blocs de compétences, il y a aussi le savoir-être et qu'ils n'ont pas les compétences d'habileté sociale qui sont demandées, ne serait-ce que ça. Et qu'il faut donc, et que pour autant, ils ont les capacités pour être aussi efficients que d'autres, voire même plus, parfois, par des particularités qu'ils ont exceptionnelles.
Vous avez le soutien de certains députés pour que cette loi puisse passer du Sénat vers l'Assemblée nationale ou pas ?
Oui, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut une volonté gouvernementale aujourd'hui.
D'accord. Et la personne au gouvernement qui s'occupe de tout ça maintenant, c'est qui ?
Il y a plusieurs ministres qui sont concernés, donc je sais que voilà,
De toute façon, en ce moment, c'est un peu compliqué pour tout.
Mais bon, je vais jusqu'au bout de toute manière pour tout. En fait, ce qui est important aussi de retenir, c'est que par contre, on ne veut pas subir, à la fois subir le poids du handicap, le poids des institutions, le poids de toutes les violences qui nous sont faites. Il faut être acteur. Il faut être la personne qui est devant, qui mobilise les forces, acteur et moteur, et d'être en amont pour, même si on peut être parfois précurseur, mais en tout cas porter des idées nouvelles et au plus près, encore une fois, des besoins, de la reconnaissance des besoins de toutes ces personnes qui ont toutes leur propre capacité et leur personnalité.
Ok, on va revenir un petit peu dans le 13e.
Oui.
Parce que je crois qu'il s'est passé un certain nombre de petites choses là, dernièrement.
Oui.
J'ai entendu parler d'un local qui va s'ouvrir. J'ai entendu plein de... Vous pouvez nous résumer un petit peu tout ce qui est en train de se passer dans le 13e ?
Voilà, alors le SAMHSA Emploi Habitat, donc, qui a ouvert en janvier, qui était donc...
Vous nous rappelez ce que c'est, SAMHSA ?
Alors un SAMHSA, c'est un... moi je suis pas en train de jouer là-dessus. Enfin bon, c'est un établissement médico-social qui accueille des personnes adultes pour les accompagner, en l'occurrence sur ce SAMHSA-là, vers l'autonomie.
D'accord.
La particularité du SAMHSA Emploi Habitat, c'est que l'accompagnement, il va être directement vers les accompagner dans l'emploi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par la case formation, ils vont directement aller dans l'emploi. Ça suit l'expérimentation qui avait été faite et portée en Andros par l'association VETA et qui a réussi il y a plus d'une dizaine d'années. Une usine qui a recruté une dizaine d'adultes autistes. Ça ne s'est pas fait en une seule année, ça a été fait avec une montée en charge progressive de ces jeunes adultes et qui travaillaient à mi-temps. Et l'autre mi-temps, ils étaient accompagnés par un SAMHSA plus un foyer pour l'habitat. Donc aujourd'hui, grâce à la mairie du 13e, l'association Maya Autisme, donc, qui porte le projet, qui est le gestionnaire, va offrir ce SAMHSA dans des locaux dans le 13e. Donc ça va être vraiment une grosse innovation. Mmh. C'est le premier SAMHSA emploi habitat du département. Donc les jeunes, à moyen terme, vont être accompagnés dans l'emploi. Alors, pour ce qui est de mon fils aussi, que je continue à accompagner en stage, en fait, j'ai fait un accompagnement un peu particulier. Je l'accompagne comme une éducatrice depuis le début. C'est-à-dire que j'analyse ses besoins, je sensibilise les équipes, je leur apprends, entre guillemets, mais quelles sont les particularités dans l'apprentissage de tâches, c'est-à-dire la répétition, décomposition des tâches, séquençage, parfois adaptation du geste, parfois des outils plus ergonomiques. Et en fait, je me rends compte que partout où il a été extrêmement bien accueilli. Donc en fait, changer le regard de la société, changer le regard des entreprises, c'est un travail de sensibilisation, d'écoute, de partenariat, qui ne se fait pas tout seul. Bon, mon fils fait un peu le job quand même, je veux dire, au niveau du relationnel, avec ses particularités et sa capacité de communication qui lui est très, très propre et qui n'est pas toujours adaptée. Mais bon, alors donc, voilà, possiblement un recrutement à la suite de ces stages, mais en tout cas, tous les jeunes qui sont accueillis dans ce SAMSA doivent entrer en entreprise à moyen terme, à mi-temps. Mais l'autre mi-temps va les conduire vers l'autonomie, et ça s'appelle emploi SAMSA Habitat, parce que à terme, il s'agit aussi d'avoir un habitat partagé pour tous. Et donc de les amener à beaucoup plus d'autonomie.
D'accord. Dans ces locaux là qui sont en train de s'ouvrir dans le 13e arrondissement, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc les jeunes vont venir passer du temps avant d'aller en entreprise, ou c'est réellement de l'administratif, ou qu'est-ce qui est prévu ?
Non, c'est de toute manière, ils seront à mi-temps en entreprise uniquement,
oui,
et à mi-temps au sein de ce SAMSA, dans lequel ils vont aussi avoir, alors, à la fois des activités qui vont être plus individualisées pour en fonction de leurs besoins personnel. À la fois, ils vont avoir aussi des activités sportives, parce que le sport, il est absolument essentiel, surtout pour des jeunes qui vont avoir mobilisé beaucoup d'attention sur le travail en entreprise, et à la fois des activités culturelles, mais aussi développer d'autres compétences. Voilà. Moi, je n'exclus pas le fait que, comme pour toute personne, il peut y avoir une mobilité, il peut y avoir un changement d'axe de profession, de domaine professionnel. Ils ont une capacité sur des tâches plus répétitives, certes, mais ça peut être dans un certain nombre de domaines. Et là, on est en train de créer aussi avec MyAutisme des partenariats avec d'autres associations du quartier, mais du 13e, grâce à M. Honoré, de la CEMAPA, qui fait le lien entre les différentes associations. Donc ça, c'est aussi très, très formidable pour le 13e, parce que des tissus associatifs comme ça qui vont se composer...
Le tissu associatif du 13e est très, très riche.
Très, très riche.
On a une chance énorme, c'est qu'il est très riche et les gens sont réellement ouverts les uns vers les
autres. Absolument, parce qu'il y a une diversité telle aussi de population dans le 13e, sociologique, mais de tout. Que ça va bénéficier totalement au SAMSA, et puis aussi aux habitants du 13e, et peut-être, pourquoi pas aussi, avec des entreprises du 13e, avec des commerces.
Et pour que ces jeunes puissent bénéficier de ce dispositif, de ces locaux, et ainsi de suite, ils vous sont adressés par quelqu'un, ou les gens, les familles peuvent venir directement vers vous en disant, moi j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider?
Alors,
comment
en fait,
ça se passe?
Comme c'est un établissement médico-social, le SAMSA, c'est une orientation MDPH. Donc, ça doit passer par la MDPH et par les commissions de CDAPH qui orientent les jeunes vers le SAMSA. Alors, il y a des jeunes qui viennent prioritairement du précédent dispositif, puisqu'ils étaient partis pour être en formation, pour aller accéder à l'emploi et être accompagnés dans l'emploi. Donc aussi, ce qui est très important, c'est que ces jeunes, ils seront accompagnés dans l'emploi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un professionnel dans l'entreprise, à côté d'eux, qui ne fera pas le travail à leur place, mais qui pourra être médiateur aussi de communication avec les autres salariés de l'entreprise, mais aussi voir quelles sont les difficultés que peuvent avoir les jeunes, qu'on peut travailler en amont, à la fois sur les habiletés sociales, mais aussi sur la posture professionnelle, sur les gestes même, et ou si tout d'un coup il y a un mal-être, que le jeune ne se sent plus bien dans son poste, en tout cas, le professionnel du SAMHSA pourra l'identifier et pourra après l'évoquer avec les autres professionnels et voir d'où ça vient, de manière à ce que voilà, le bien-être et la bien-traitance, la bienveillance soient toujours, toujours, toujours présentes.
Présente.
Et forcément, j'y veillerai étant donné le passé que j'ai évoqué.
Oui, je crois que ça, on a compris. Je crois que ça, on a compris. Encore une petite question. Vous avez évoqué le sport tout à l'heure et ça a attiré mon attention. Est-ce qu'il y a des clubs de sport qui sont ouverts aux gens qui sont atteints du syndrome de l'autisme, ou est-ce que c'est quelque chose qui ne se fait pas? Est-ce que vous voyez des clubs de sport qui sont plus ou moins ouverts, ou c'est... Alors, je ne parle pas spécialement de foot, ça peut être n'importe quoi, du ping-pong ou autre. Est-ce que vous avez ce genre de relation avec les équipes de sport ou pas du tout?
Alors, ça fait partie des orientations politiques et des orientations des politiques publiques, on va dire, de sensibiliser dans tous les clubs sportifs les professionnels, les animateurs, de manière à ce qu'ils accueillent de plus en plus de personnes autistes ou de personnes en situation de handicap visible ou invisible. Moi, j'ai eu plusieurs expériences. Et je suis allée témoigner d'ailleurs au CESE, qui était sur toute une journée qui était dédiée au handisport. Moi, j'ai vécu les deux expériences sur un sport très, très, très précis, qui est l'escalade en salle, que pratique mon fils. Il a commencé à le pratiquer parce que je voyais que quand il était petit, il escaladait les toboggans par l'extérieur. Mais il n'arrivait pas à grimper les marches, mais il escaladait. Mmh. Et donc, voilà, à l'adolescence, en province, j'ai demandé très timidement si, pour être accueilli, l'escalade. Alors, quand il a commencé à faire les échauffements, je voyais les gens qui me regardaient en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre dame, avec son fils ? Mais c'est vraiment... Il n'y arrivera jamais. » Et l'équipe m'a dit « Vous inquiétez pas, tout va bien. » Ils l'ont pris en charge. Et en fait, ils accueillaient déjà, eux, un IME, un Institut Médico-Éducatif Autisme, d'accord, à proximité. Donc, ils étaient très inclusifs. Et je me suis rendu compte que les enfants, très vite, me disaient « On n'a pas besoin de vous, madame, on va s'en occuper. » Et en fait... les enfants aussi étaient dans ces... Parce qu'il y a toujours, un jeune qui, soit dans sa famille, une personne en situation de handicap, soit est sensibilisé pour telle ou telle raison, soit parce que ça va le valoriser et qu'il va vouloir être tuteur. Et en fait, c'est aussi partie de là, l'histoire du lycée. Bref, il continue à y aller, il y progresse énormément, parce que là, on a un club de sport qui est totalement inclusif. Il a fait également dans une autre salle... de l'escalade. Et là, les animateurs me disaient « Ben, on préférait que ce soit vous qui l'assuriez. » Et les jeunes n'en avaient strictement rien à faire parce qu'ils n'avaient pas été sensibilisés, parce qu'on ne l'avait pas dit, parce que moi, je n'avais pas été vraiment autorisée à le dire. Donc, en fait, c'est très variable. Mais dans notre expérience personnelle, je vois, il fait du catamaran, il prend des cours dans les piscines où il est super bien accueilli. Mais ce n'est pas toujours le cas partout, c'est vrai. Il y a encore un gros, gros travail au niveau de tous les centres sportifs. Mais bon, on peut dire globalement qu'il y a quand même une grosse évolution positive.
En tout cas, moi, ce que je ressens depuis le début de notre conversation, c'est globalement, les gens sont quand même à votre écoute, ils sont là. Alors, si on met de côté le milieu médical, où ça s'est très mal passé...
Non, mais il y a eu du très, très bon aussi. Non, non, mais je parlais... vous me demandez de tracer notre parcours et voilà, c'est vrai que les premières années ont été compliquées, mais après...
Si on prend la crèche, si on prend l'école maternelle, si on prend ce qui s'est passé à l'école élémentaire, ce qui s'est passé au lycée, si on prend là les associations pour qu'ils puissent avoir des stages, si on prend... On voit quand même que tout au long de votre parcours, il y a quand même une certaine bienveillance, il y a certaines écoutes, pas tout le monde, ça c'est ce que j'ai ressenti, il y a même des fois des réactions qui sont un peu énervantes, mais globalement, j'ai l'impression que l'accueil est quand même plus positif que ce que je pouvais moi imaginer au début de notre conversation.
Oui, je ne parle que de mon cas personnel, ça n'est pas forcément ce qui se passe partout. Mmh. Bon, encore une fois, mon fils fait le job. Et ça, c'est sympa, c'est sympa de sa part. C'est dans la manière de sensibiliser aussi des personnes qu'on rencontre. Ça ne marche pas à tous les coups, forcément. Il y a eu des entreprises qui m'ont dit oui, non, merci. C'est variable, mais j'insiste sur la manière de sensibiliser et de convaincre. C'est possible. À partir du moment où j'y suis arrivée dans beaucoup d'endroits, c'est qu'on peut le faire.
C'est dans
le domaine
du possible.
Il n'y a pas que moi, c'est pas mes compétences à moi. C'est que c'est faisable.
Okay.
Enfin, j'y crois. Enfin, je crois qu'on peut changer la société. Et aussi, je veux revenir sur l'inclusion au sein du lycée. Pour moi, ce qui était essentiel, c'était, et j'aimerais que le tutorat fasse partie du programme scolaire de tout jeune neurotypique, ordinaire, parce que c'est valorisant pour les personnes et que on peut même réintégrer dans l'envie d'apprendre des jeunes qui sont un petit peu en marge, parce qu'ils ont été tuteurs et parce qu'ils ont été valorisés par cette action. Et ce que j'ai vu en club d'escalade, c'est ce que j'ai voulu reproduire au sein du lycée, parce que les lycéens, les adolescents, s'ils sont marqués par une action comme ça valorisante et par le contact qui est plus banalisé du handicap, c'est eux qui seront en construction d'une société plus inclusive. Donc c'est sur eux qu'il faut porter l'action principalement.
Comme beaucoup de dossiers d'ailleurs.
Bien sûr.
Écoutez, je vais vous remercier parce que vous avez parlé à cœur ouvert. Vous m'avez appris plein de choses. Vous nous avez appris avec Monsieur Théo plein de choses. C'était passionnant. Vous êtes venu avec un deuxième titre. Un deuxième titre qui s'appelle Traveler, si je me souviens bien. Je vais vous demander ce coup-ci de l'expliquer avant parce qu'après on va passer à autre chose.
Alors, déjà parce que moi parfois je suis un peu fatiguée par mes insomnies, parce qu'il y a l'avenir aussi qui est préoccupant. Et j'ai vu Spectacle Stories au 13e Arc, un théâtre que j'adore, dont j'adore la programmation, qui est vraiment très contemporaine. Et
qui est situé où?
Place d'Italie.
Voilà.
Et vraiment une programmation remarquable. Et donc, des spectacles vraiment contemporains, mais pas juste dans l'air du temps. C'est très très grande qualité et ce spectacle m'a mis dans une énergie et donc je me mets ça le matin pour me remettre en forme, pour me mettre en énergie, pour faire de la danse, pour
avoir votre énergie d'aujourd'hui. Je pense que vous l'avez écouté ce matin.
Et bien pas encore, donc je me le réservais parce que je savais que vous m'étiez. Et puis parce que Traveler, c'est ce qu'on est finalement. Voyager, on ne sait pas où on va, mais on y va.
On va écouter ça tout de suite et on va reprendre un plein d'énergie. À tout de suite. You're gonna walk that road and not look back. Put the heavy load down before you crack. You gotta focus now on the far away and get some rest from yesterday. You got days and years and lives to live and wars to lead and love to seize. No more king, no god, no shallow vow. Just a traveler and his shadow now. You're gonna walk that road and you're not gonna stop until you feel at home. And you're not gonna stop until you find that land with an open hand, until you feel safe and warm, until you feel wise and calm. Until life is no more an enemy, but a playful friend in an unlimited playground. Until you know your name, maybe you'll win the game. Each day we get the job, we get the job done. We make the world run, who knows when the sun will drop. As long as we get up, as long as our lives aren't gone. Each day we get the job, we get the job done. We get our hearts sprung, who knows where the sun may shine. To make my boss proud, I'm in the front line. You're gonna walk that each road and not look job, back. Get the heavy load, we down the world run. Who knows where the sun will drop. As long as we get up, as long as our lives aren't gone. Each day we get the job, we get the job done. We get our hearts sprung, who knows where the sun may shine. To make my boss traveler, proud, I'm in the front line.
Dans l'actualité aujourd'hui, Donald Trump prolonge le cessez-le-feu avec l'Iran jusqu'à nouvel ordre, une prolongation qu'il avait pourtant jugée hier hautement improbable. Nouvelle volte-face donc du président américain qui a tout de même annoncé le maintien du blocus sur les ports iraniens. L'ambassadeur iranien à l'ONU promet lui qu'un cycle de négociations se tiendra à Islamabad dès que les Américains lèveront le blocus. Toujours au Moyen-Orient, le Liban et Israël vont de nouveau se rencontrer pour des négociations directes. Prévues demain à Washington, le Liban espère obtenir le retrait de l'armée israélienne du sud Liban et une délimitation définitive de la frontière commune. De son côté, l'État hébreu souhaite toujours le désarmement du Hezbollah. Depuis le début de la guerre, le 2 mars dernier, 2454 personnes auraient trouvé la mort d'après les autorités libanaises. Le Japon a annoncé hier assouplir ses restrictions concernant l'exportation d'armes. En vigueur depuis 50 ans dans l'archipel, l'abandon de sa politique d'auto-limitation est historique et ouvre la voie à la vente d'armes létales à l'étranger par un pays pourtant de constitution pacifiste depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron en visite aujourd'hui dans l'Allier. Le président de la République tiendra dans la journée un conseil des ministres délocalisé à Montluçon, événement rare d'après l'Élysée. Au programme, table ronde sur la simplification industrielle, environnementale, agricole et la souveraineté alimentaire, ainsi qu'une visite du site Imerys, entreprise qui développe l'exploitation de lithium. L'association Antoine Aleno lance une action collective en justice contre des sociétés qui fabriquent et commercialisent du protoxyde d'azote. L'association dénonce des visuels attractifs pour inciter à l'inhalation du gaz et désire des sanctions face à ces pratiques déloyales. Et enfin, le ministère de l'Intérieur a annoncé hier que le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés, ANTS, a été la cible le 15 avril dernier d'un incident de sécurité. Au total, les données personnelles de près de 12 millions de citoyens ont été volées. Revenons ensemble sur les dernières avancées entre les États-Unis et l'Iran. Alors souvenez-vous, c'était déjà il y a 53 jours, Israël et les États-Unis déclenchaient par l'intermédiaire de frappes aériennes un conflit en Iran. Le leader de la République islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, est tué au premier jour de la guerre. Contrôlant le détroit d'Ormuz, point de passage majeur dans le commerce pétrolier mondial, l'Iran menace puis ferme totalement l'étroite enclave, engendrant des hausses de prix des carburants partout dans le monde. Allez, on avance un petit peu dans le temps pour ce conflit. Le régime iranien, certes fragilisé par le conflit, reste en place et accepte une proposition de cessez-le-feu de Donald Trump qui ressemble plus à un ultimatum militaire qu'à un processus de paix, soyons honnêtes. Mais l'Iran conserve la mainmise sur le détroit, alors les États-Unis entament un blocus sur les ports iraniens. Les deux pays s'accusent l'un et l'autre de briser ce fragile cessez-le-feu. Celui-ci devait arriver à expiration ce mercredi soir, heure de Washington, d'après Donald Trump. Et il y avait une question qui subsistait, est-ce que la paix sera au rendez-vous ou le conflit va-t-il reprendre? Une nouvelle session de négociation est prévue cette semaine et devait commencer hier à Islamabad au Pakistan dans l'incertitude totale. En effet, même mardi matin, aucune délégation iranienne n'était encore en route pour le Pakistan, laissant entrevoir que ces négociations n'auront pas lieu. Le président des États-Unis, Donald Trump, fidèle à lui-même, estime que son pays est dans une position très forte pour négocier et pense que l'Iran n'a pas le choix, ce que conteste évidemment le pays du Golfe. Et le président américain va plus loin et délaisse la subtilité, je cite « je m'attends à bombarder », une déclaration choc dont il a le secret. Et alors finalement, on a appris la nouvelle dans la nuit, nouveau sursis, Donald Trump a décidé de prolonger jusqu'à nouvel ordre le cessez-le-feu, maintenant tout de même le blocus américain sur les ports iraniens. Donc vous le voyez, rien de très clair et de sûr, puisque dans ses déclarations, le président américain souffle à la fois le chaud et le froid, des accusations dans tous les sens, un détroit qui s'ouvre et qui se ferme tous les deux jours, un blocus américain, mais surtout des peuples qui souffrent, car eux vivent ce conflit sous les bombes et dans l'incertitude de voir le jour prochain.
Tu sais bien que j'aime rebondir un petit peu, soit sur tes nouvelles, soit sur ta rubrique. Et là, je voudrais prendre 30 secondes, une minute, pour parler un petit peu de Donald Trump. En fait, on se demande si ce mec est complètement taré ou si ce mec est complètement habile. Et on peut se poser la question parce qu'en fait, il essaye d'être tout le temps présent. Tous les jours, il nous trouve quelque chose. Mais on voit aussi un petit peu que ça ne marche pas tout à fait si on regarde la politique intérieure des États-Unis. On se rend compte qu'en interne aux États-Unis, il est de plus en plus impopulaire. L'inflation est montée, le prix du gazoil est monté et on voit que ça commence à mal se passer entre lui et son vice-président. Je vous rappelle qu'il y a des négociations qui sont peut-être en cours ou qui vont peut-être commencer et que Donald Trump a essayé de mettre de côté son vice-président qui n'est pas mieux que lui, entre nous, mais enfin, il a essayé de le mettre de côté, et que ce vice-président est quand même, a tout fait quand même pour aller présider ces négociations. Et on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose aux États-Unis, quelque chose qui devrait nous interpeller. Est-ce que Donald Trump est un parfait crétin? Ou est-ce que Donald Trump est un parfait négociateur? Moi, je vous laisse imaginer ce que vous voulez. Je pense plutôt qu'il n'est pas si crétin que ça et qu'il commence à faire le vide autour de lui pour pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire briser la démocratie des États-Unis, mais aussi les démocraties mondiales, et s'imposer comme d'autres ont pu le faire dans les années 30, d'il y a un siècle à peu près. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup, Monsieur Théo, tu as choisi quoi comme titre ?
J'ai choisi Superstation de Stevie Wonder. Et il n'y aura pas d'analyse complète du son.
Comme d'hab.
Juste, j'adore
voilà,
cette
comme
musique.
Voilà, j'ai pris l'habitude. Quand je te dis pourquoi, bah parce que j'aime bien.
C'est juste ça, j'aime bien la musique. Alors bon, ouais, c'est
ok, bah écoute, on va se détendre un petit peu et on va écouter Stevie Wonder.
We'll be right back. C'est maintenant, c'est la rubrique de Claude.
On ne va pas se le cacher, la situation en France est de plus en plus tendue. Entre le prix des carburants et du gaz qui augmente, le secteur de la santé qui ne fait que de se détériorer de plus en plus, les transports de plus en plus chers, il a de quoi faire monter la pression. En face de cela, il y a quoi ? Des dirigeants de plus en plus coupés des réalités, des dirigeants qui ignorent la gronde qui monte. Est-ce que cibler l'aide pour l'achat des carburants est suffisant lorsque cela ne concerne que les paysans, les transports routiers et les pêcheurs ? Non, bien évidemment. Et pourquoi seulement cela ? Déjà parce que ce sont les plus râleurs, les plus organisés, les plus visibles. Lorsqu'ils descendent dans la rue, ça fait du bruit. Ça bloque une partie du pays et donc de l'économie. Bref, ils sont visibles et peuvent mettre à mal la communication de nos gouvernants. Mais aussi parce que les autres, c'est-à-dire 80% des habitants de notre pays, sont des hommes et des femmes sans pouvoir de pression. Par exemple, les infirmières, les aides-soignantes, les médecins, les vétérinaires, les ambulanciers, bref, tous les intervenants de la santé ont à cœur de ne pas laisser tomber leurs patients. On en viendrait presque à souhaiter que nos dirigeants et des membres de leur famille soient juste un peu, mais juste un peu, dépendants de cet intervenant pour qu'ils puissent toucher du doigt les réalités économiques des infirmières, aides-soignantes et aides à domicile qui, elles, ne sont pas soutenues par le gouvernement. Que dire des millions d'employés qui, tous les jours, sont obligés de prendre leur voiture, parfois sur de longues, voire de très longues distances, pour juste rejoindre leur travail ? Eux, non plus, n'intéressent pas nos décideurs. On passera sous silence le fait que ces personnes sont obligées de prendre des moyens de transport individuels par abandon d'une vraie politique de transport collectif, par une politique d'aménagement du territoire désastreuse, mais aussi on insistera sur le choix budgétaire de nos élus. Oui, les caisses sont vides. Oui, les impôts sont hauts. Oui, l'équilibre de notre système social et d'entraide est en péril. Mais à qui la faute ? Qui prend la décision de favoriser la hausse du budget militaire au détriment des autres chapitres de la loi de finances ? Qui a décidé notre dépendance industrielle et énergétique et bientôt pharmaceutique envers l'Asie, les Amériques et autres pays éloignés ? Qui, sinon nos dirigeants de tous bords ? Ceux qui bénéficient de voitures de fonction, ceux qui ne sortent pas la carte de crédit pour mettre de l'essence, pour rejoindre leur lieu de travail, ceux qui ne seront jamais inquiétés en fin de mois pour couvrir tous les frais, ceux qui n'auront pas à faire la queue aux caisses des hypermarchés pour se nourrir à moindre frais. On peut insister aussi sur les énormes profits des sociétés liées à l'énergie, comme aux armements, grâce à cette guerre entretenue par un fou malade, porte-drapeau des grosses sociétés cotées en bourse. On ne passera pas sous silence le profit extraordinaire des sociétés pétrolières qui profitent maintenant ouvertement des guerres pour s'assurer les unes et les autres de gros salaires et aussi des dividendes, c'est-à-dire l'argent qui dort et ne soutient pas l'économie. On peut se poser la question de la décision de bloquer le détroit d'Ormuz par le crétin en chef à la chevelure orange, de façon à faire fructifier son propre portefeuille et celui de ses sbires. Alors, ne nous étonnons pas si demain ou après-demain, les gilets jaunes redeviennent la tenue de rigueur dans les rues. Ne nous étonnons pas si demain des actions violentes sont remises au goût du jour. Ne nous étonnons pas si les partis d'extrême gagnent des voix aux élections, peut-être même en noyautant les mouvements des gilets jaunes, des paysans et des routiers. Nos dirigeants sont de plus en plus isolés, mais aussi bien en Europe que dans le monde. Nombre de pays ont baissé les taxes liées au carburant. Il est encore temps de réagir, Monsieur le Président et Monsieur le Premier ministre. Après, il sera trop tard pour endiguer la montée du mécontentement et ouvrir aussi les autoroutes aux extrêmes.
Mon Paris FM, il est 11h44 et c'est l'heure pour nous de demander quelle chanson tu as choisi, Claude.
Eh bien écoute, j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé une chanson concernant les gilets jaunes, puisque je pense que peut-être dans les temps à venir, on va se retrouver avec des gilets jaunes dans la rue. Et donc cette chanson, elle m'a parlé. Je ne la connaissais pas, elle m'a parlé. On va l'écouter tout de suite.
Dans leurs gilets jaunes fripés, ils s'en allaient manifester dans le petit matin frileux, les gueux. Ils sortaient tous les jours de la semaine pour crier la coupe est pleine, ils se battaient pour qu'on vive mieux, les gueux. Ils luttaient contre la misère. Il était plus question de se taire. ne demandez pas le paradis, juste être compris. Dans leur gilet jaune fripé, pacifistes mais déterminés, ils bloquaient fermement les lieux, les gueux. Le soir, ils maintenaient le blocage sur les ronds-points et au péage. Ils voulaient plus baisser les yeux, les gueux. Y a jamais eu autant de personnes pour réclamer que démissionne tous ces politiciens véreux, des gueux. Dans leurs gilets jaunes fripés, portant la France des oubliés, enfin on les voyait un peu, les gueux. Ensemble ils chantaient des chansons, tout y passait bourgeois patron, le refrain Macron démission, à plein poumon. Ils veulent plus de BFM TV, de tous ces médias enchaînés qui sèment la peur, la division. C'est leur mission, dire qu'ils ont passé des années à payer toujours sans broncher. Il était temps d'ouvrir les yeux, les deux. T'aurais pu si t'étais malin calmer la colère et la faim de ce qu'avance le ventre creux, les gueux. Mais tu es tellement méprisant, tu n'as pas le cœur assez grand pour y loger tous ces gens-là. Voilà, en pensant à tout ça, je me dis vivement la vraie démocratie. Ils ne marcheront plus d'ici là au pas.
Mon Paris est fait.
De retour dans les studios de Mon Paris FM, dans votre émission Direct du 13. On a discuté un petit peu, on était avec les micros fermés, on est revenu un petit peu sur le début de l'émission concernant l'autisme avec Marie. Et Marie voulait apporter deux petites précisions, Marie, au sujet de la psychanalyse.
Oui, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que la Haute Autorité de Santé a sorti ses recommandations de bonnes pratiques concernant les enfants et les adolescents autistes et que désormais la psychanalyse figure parmi les interventions non recommandées en raison d'un niveau de preuve insuffisant. Et ça, c'est un vrai tournant. La deuxième chose que vous évoquiez tout à l'heure par rapport effectivement à l'expertise des parents et ce que je disais par rapport au fait qu'ils étaient un interlocuteur qui devait être privilégié près des personnes qui s'occupent de leurs enfants, c'est que là, l'association Maya Autisme, c'est son cœur de métier de s'occuper de personnes autistes, mais que ça a été fondé par des familles et que les parents sont sollicités à tout moment et qu'il y a des échanges quotidiens. Pour moi, c'est assez nouveau, parce que c'est ce que j'ai toujours demandé. Les échanges quotidiens qui permettent d'enrichir les connaissances des uns et des autres. Autant les professionnels peuvent évidemment avoir une vision très très différente de ce que ne connaissent pas les parents sur leur enfant à l'extérieur. Et ça permet bien sûr d'abord d'évoluer plus de sérénité pour les parents, mais aussi la visée, c'est le bien-être et la meilleure évolution possible de la personne accompagnée.
Ok, merci pour ces précisions. Ce que je vous propose, Marie, c'est qu'on va laisser passer un petit peu de temps et puis peut-être d'ici la fin de l'année, on se refera peut-être une émission pour voir la façon dont a évolué ce nouveau lieu du 13e, de voir un petit peu la façon dont ça a évolué. Et puis ça me fera plaisir de vous revoir, parce
merci.
Que j'ai trouvé que cette émission était très très riche et très, très dans l'empathie. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ça m'a apporté beaucoup. Et c'est un monde que je connaissais très peu. Et j'ai de l'admiration pour vous, franchement.
Oh, merci, ça me touche énormément. Mais merci à vous, d'abord de votre écoute, de votre bienveillance. Et puis aussi, je peux dire tout ça parce que vous avez mené cet échange dans ce sens-là. Donc c'est grâce à vous, je vous en remercie.
Non, c'est grâce à toute l'équipe, là, même ceux qui sont derrière la vitre
oui.
là-bas,
oui,
qui nous font des coucous.
Merci.
Je vais peut-être donner deux, trois petites informations locales. Déjà, il se trouve qu'on a fini un peu la période électorale, donc on va pouvoir reprendre tout un tas de réunions dans l'arrondissement. Par exemple, les conseils de quartier vont se remettre en route. Alors vous savez que à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a 8 conseils de quartier. Alors je crois qu'il y a une réunion qui est prévue avec... Les gens qui sont là pour animer les conseils de quartier, ils vont se réunir entre eux. Et puis, on va pouvoir relancer nos groupes de travail. Alors, je vous rappelle, le groupe de travail, c'est le groupe du quartier, je vais arriver à le dire, c'est le CQ8. Voilà, j'ai eu du mal. Et on a plusieurs groupes qui fonctionnent. On a le groupe transport, on a le groupe commerce, on a différents groupes comme ça. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Je vous invite à venir échanger vos idées avec nous. C'est important. Il se passe pas mal de choses dans notre quartier. Et donc, venez nous rejoindre. Je voulais aussi vous signaler la saison 2026 du kiosque, en fait, qui va démarrer samedi, donc du 18 avril au 25 octobre. Il y a pas mal de choses qui vont se passer dans les kiosques sur le 13e arrondissement. Il y a le kiosque boulevard Auguste Blanqui, il y a le théâtre de verdure du parc de Choisy. Et donc, il y a tout un tas d'animations qui vont avoir lieu. Et je pense que ce serait bien d'aller voir à la mairie. Vous avez un programme qui est à votre disposition. Alors, vous allez sur le site de la mairie du 13e arrondissement et vous verrez qu'il se passe tout un tas de choses au niveau des kiosques. Je voulais aussi vous dire qu'il y a des nouvelles fresques qui ont été peintes dans le 13e arrondissement. Vous savez qu'on est quand même l'arrondissement où il y a le plus de fresques. Ouais, c'est nous. Allez voir du côté de la place Jeanne d'Arc. Vous allez être surpris. Il y a une énorme fresque qui a été mise en place. Alors, j'ai pas le nom, on va m'en vouloir, mais j'ai pas le nom de l'artiste. Mais c'est quelque chose de très, très doux, très poétique dans le bleu. J'adore cette couleur. Même si c'est le rouge, la couleur de mon Paris FM, vous allez voir juste en face du marché, vous allez voir quelque chose qui est tout nouveau, tout beau. Je crois que l'artiste a fini cette semaine. Et il y a d'autres fresques qui se mettent en place dès cette semaine et dans le courant du mois de mai. Et franchement, de plus en plus, nous sommes le premier arrondissement au niveau des fresques de Paris, comme nous sommes aussi maintenant le premier arrondissement concernant la vie étudiantine, puisque nous avons le plus d'étudiants, plus que le 5e arrondissement maintenant. Et donc, on en est très fiers, puisque ça apporte une certaine vitalité au niveau de notre arrondissement. J'ai demandé à la technique, là-bas, à nos deux petits jeunes, qui nous suivent depuis le début, très attentivement, je dois dire, de nous lancer un titre. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont choisi.
Another Star de Stevie Wonder.
Voilà, il vient de le dire. Et on va écouter ça tout de suite. Et puis, on se retrouve juste après pour la conclusion. À tout de suite. We'll be right back. Eh bien, écoutez, de retour dans nos studios pour la fin de cette émission, qui était une émission, on était en train de discuter tous ensemble, qui était une émission très, très, très intéressante. On a appris plein de choses, on a vu plein de choses concernant l'autisme. Encore une fois, Marie, un très, très grand merci. Franchement, ça nous a fait très plaisir de vous accueillir.
Merci beaucoup à vous. D'accord.
Et on se retrouvera donc d'ici la fin de l'année. Monsieur Théo, merci beaucoup.
Merci à toi, Claude.
Voilà. Messieurs de la technique, un très, très grand merci. On va finir avec le titre que vous avez choisi. Je crois que il n'y a pas de raison de changer. Et on se retrouve donc dans 8 jours pour une nouvelle émission d'1h30 en direct sur Mon Paris FM. Ciao, ciao.